Parler du nucléaire n'est pas chose facile. La discussion est souvent technique. Heureusement, Bernard Laponche, physicien nucléaire, connaît la technique sur le bout des doigts. Aucun neutron n'a de secret pour lui. Mais ce n'est pas qu'une question technique, c'est aussi une question politique. En France, nous sommes 66% à vivre à moins de 75 km d'un réacteur nucléaire. Il est grand temps que la population soit actrice des choix énergétiques. Et enfin, le nucléaire est un sujet éthique. Quelle est la responsabilité que nous portons en faisant des choix techniques aujourd'hui qui impactent les générations futures? Technique, politique, éthique, voilà les trois regards que Bernard Laponche peut porter sur le nucléaire. Ce podcast s'appelle « Un déjeuner chez Bernard » et c'est parti. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode d'un déjeuner chez Bernard. Nous sommes chez Bernard avec le docteur Paul Dorfman. Vous allez vite l'entendre, Paul Dorfman, le docteur Paul Dorfman est britannique. Et nous allons parler de Hinkley Point. Peut-être vous avez entendu parler de ce réacteur que EDF essaie de construire en Angleterre. Et nous allons faire le point justement sur la situation de ce réacteur et de tout ce qui tourne autour avec Paul. Bonjour Paul déjà.
Alors bonjour. Alors moi je suis Paul Dorfman. J'étais dans le nucléaire depuis assez longtemps. Alors, excusez-moi, je suis anglais, donc je ne parle pas forcément bien français. J'essaie de parler français. Bien sûr, je vais faire des erreurs. J'espère que vous me permettez. Alors moi, j'ai une histoire longue dans le nucléaire. J'étais chef de cabinet gouvernemental dans un comité scientifique de radiation internelle. J'étais conseiller de la militaire nucléaire par rapport au démantèlement de les sous-marines et des réacteurs. Et aussi, l'Assemblée nationale a demandé mon avis par rapport au démantèlement de les réacteurs à nucléaire, les centrales françaises. Je suis aussi le chef, soi-disant, de la Nuclear Consulting Group. C'est un groupe d'à peu près 100 experts et académiques. Et aussi, en ce moment, je suis member of le gouvernement irlandais comité protection de nucléaire.
Parce que ta spécialité, c'est les questions de radiation. C'est ça? C'est à ce titre-là que tu participes à tous ces groupes?
Oui, c'est ça. Mon vraie spécialisation, c'est le problème de la pollution radioactive et l'effet dans les humains et l'environnement. Mais quand même, je comprends beaucoup d'autres choses autour de tout ça.
Donc tu as suivi, j'imagine, toute l'histoire de Hinkley Point. Si on revient au début de cette histoire, hein, quand est-ce que le gouvernement décide d'acheter un réacteur EPR à EDF?
Ah, ça c'est une grande histoire. Alors, à peu près 2009, EDF a acheté tous les sites de vieux centrales et aussi des centrales AGR en Grande-Bretagne. Par un assez grand, pour pas cher, il faut dire, pour pas cher. Alors, par rapport au le réacteur EDF de Hinkley Point, c'est une longue histoire. Pourquoi les Anglais ont décidé d'aller là? Parce que EDF, ils ont acheté le what's known as British Energy.
Okay.
All of the sites of British Energy. British Energy was privatized, c'était privatisé.
Okay.
Et donc en 2009, EDF a acheté tous les sites de centrales et aussi tous les vieux AGR reactors.
AGR, c'est un type de réacteur.
Et il y a une grande histoire de le liabilities, the decommissioning fund. Il y a toute une histoire par rapport les vieux problèmes de nucléaire.
Ouais,
en tout cas, par rapport le EPR, actuellement, ce qui est passé, c'est que petit par petit, les Anglais, les Britanniques, on ne sait pas vraiment pourquoi. Ils ont suivi un peu la route à nucléaire, mais ils n'ont rien fait. Ils ont dit, oui, on va aller faire nucléaire, mais pour beaucoup de raisons, ils n'ont rien fait. Alors tout un coup, il dit, ah mince, il faut faire quelque chose. Et dans ce moment-là, le seul réacteur qui a passé what's known as the generic design assessment, les règlements par rapport les réacteurs, the design of the reactor, le seul réacteur qui a passé ça, c'était le EPR. Donc il y a deux choses. Alors, EDF, ils ont tous les sites de centrales.
Ouais, ils ont tout racheté.
Ok, ils ont tout acheté. Et en plus, c'était le seul réacteur qui a passé le generic design assessment, le règlement. Et ça vaut 4 ans pour passer le generic design assessment. Donc, ils ont dit, bof, allez, on s'en va.
Et bien sûr, on prend ce chemin-là.
On prend ce chemin-là. Okay. Et alors, bien sûr, même en France, you know, the board of EDF, you know, it was, I believe le vote était 10 pour et 7 contre.
Oui, au conseil d'administration, ça a été un moment de grande tension. Le directeur financier a quitté EDF à ce moment-là. Il y a d'autres gens du CA d'EDF qui ont quitté EDF au moment où EDF vend Hinkley Point. Enfin, il y a eu des grosses tensions en interne, oui.
Et bon, alors, ils ont décidé, ils ont fait une chose qu'on appelle le contract for difference, un contrat.
Okay.
Et le contrat était pour le gouvernement anglais, ou the National Grid, d'acheter l'électricité à 92.6 pounds per megawatt hour.
Okay. Dans le contrat, on spécifie que ça coûtera 92 livres par kilowattheure.
Oui, les Anglais vont acheter ça, le pouvoir. Mais aussi, c'était index-linked par inflation.
Okay.
Donc, c'était lié à inflation.
Okay.
Donc, maintenant, le prix, c'est à peu près 120 pounds, livres, pounds per kilowattheure.
Okay.
Because it's linked with inflation.
Okay.
Ce qui est très, très cher.
Ça, c'est cher, mais aussi, la chose qui est très importante, c'est que le gouvernement anglais a fait une petite astuce, c'est-à-dire que s'il y a des problèmes, c'était EDF qui va payer. Donc, s'il y a des délais ou s'il y a un monte de coûts, c'est EDF qui va payer. Alors, EDF, ils ont dit à 2020, il va payer à peu près 18 milliards pounds pour construire à Hinkley Point C. OK? Mais This is in 2050 money. Ça, c'est
De l'argent de 2015.
Exactement. Okay. Alors maintenant, le coût, le coût dans l'argent de 2015, c'est à peu près 46 milliards.
Au début, ils avaient dit 18, maintenant c'est 46.
Ouais.
En argent de 2015.
En argent de 2015. Exactement. Alors, ils disent en argent, soi-disant maintenant, c'est à peu près peut-être 36 milliards. 36 milliards dans l'argent aujourd'hui. C'est un peu difficile, mais je peux expliquer ça après.
C'est moins en argent d'aujourd'hui qu'en argent de 2015.
Oui, mais... Okay. Oui. C'est un peu compliqué. Alors, avec le monte de coût, avec les délais, EDF doit trouver à peu près entre 17 et 20 milliards livres.
Okay.
Et c'est vous pauvres Français, qui, qui devez payer ça.
Oui.
Et en plus, la chose qui est très importante, parce que peut-être Hinkley Point, c'est trop grand à faillir. Il doit continuer. C'est un peu un fait accompli. N'importe quoi. Mais le grand problème maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe avec Sizewell C. Alors, Sizewell C, il veut construire encore deux EPR 1 à Sizewell C.
Okay.
Et ils disent ça va coûter 15 milliards. Mais actuellement, si on voit qu'est-ce qui se passe avec Hinkley Point, ça peut pas arriver.
Oui, ça n'a pas de sens.
Ok. Alors aussi, si on pense sur le grand carénage, ça veut dire the mandatory safety upgrades.
Ok.
Oui, c'est quand on rend obligatoire des améliorations des réacteurs.
De tous les réacteurs français, ça coûte entre 50 et 100 milliards, euros. Et en plus, 6 nouveaux EPR1 pour la France, ça coûte 100 milliards?
Oui, on ne sait pas bien.
Exactement. Ouais. Donc, c'est des numéros très impressionnants, il faut dire.
Oui.
Et c'est, heureusement ou malheureusement, vous les Français qui doivent le payer.
Et oui.
Et parce que pour Sidewell 6, il y a aussi le même, y a le même contrat de s'il y a des délais et s'il y a des surcoûts, c'est pour EDF de payer.
En effet, si on regarde qu'est-ce qui se passe avec les EPR globalement, les problèmes à Olkiluoto, bien sûr les problèmes à Flamanville. Le EPR, the design, the EPR 1, c'est vraiment un problème. C'est pour cette raison, peut-être, les Français ont essayé de choisir un design, il faut dire, moins sûr, le EPR 2. Et on dit, est-ce que c'est assez, on peut, est-ce qu'on peut être rassuré que c'est OK?
Ouais.
Alors, attends, Bernard veut dire quelque chose, oui.
Une remarque. Une livre vaut 1,17 euros.
OK.
Donc, c'est pas trop... C'est 10% de... Il faut ajouter, il faut ajouter 20%, quoi. Mais c'est comparable, disons.
Oui, oui, oui.
Voilà.
C'est tout ce que tu voulais nous dire?
Oui, oui.
Ah, d'accord, c'était le bureau de change. Très bien. oui, pardon, Paul.
Et aussi, alors, donc, dans, il y a 2 semaines, tout a changé en Grande-Bretagne. Ah, pas tout a changé, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tout le monde, you know, the Financial Times, the Telegraph, the Guardian, il y a, you know, 3-4 semaines, tout le discours était, ah oui, on est dans le nucléaire, you know, peut-être tout va bien, ok. Mais maintenant, il y a un grand discours qui dit, mais qu'est-ce qui se passe? I mean, you know, actuellement, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça va changer des choses? On ne sait pas forcément, mais il y a un grand changement. Alors, pas pour les problèmes de EPA1 à Hinkley Point C. Alors, EDF a publié actuellement un petit discours qui dit « Ah oui, mais excusez-moi, ce n'est pas forcément notre faute. Il y a le COVID. » Et aussi, « The Office for Nuclear Regulation », ça veut dire les gens qui régulaient les réacteurs.
Donc, l'équivalent de l'ASN, l'autorité de sûreté nucléaire en France.
C'est ça, exactement. Okay. Ils disent, ils ont nous imposé beaucoup de changements. Ils ont dit actuellement 7000, ils ont nous imposé 7000 changements et tout ça et tout ça. Mais tout de suite, et c'est vraiment pour la première fois, le ENA a réacté très vite. Et il y a 2 jours, ils ont dit, ah non, 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 nous n'avons pas vraiment imposé des changements actuellement. Et si on regarde ce qui se passe pour le développement de l'EPA1, nous avons juste fait notre travaux un peu comme les Français. Donc, une chose qui est très intéressante, c'est pour la première fois, the Office for Nuclear Regulation a vite réagi contre le discours de EDF.
Ok.
Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est très, très intéressant.
OK. Et c'est intéressant parce que tu penses que c'est... Enfin, ça permet d'empêcher EDF de raconter n'importe quoi dans les médias. La couverture médiatique dont tu parles, la question, c'est quoi? La question, c'est sur les coûts. C'est est-ce qu'un jour, le PR va marcher? Ou est-ce qu'il y a même la question de... Est-ce qu'il faut arrêter ce projet, en fait, maintenant? Parce qu'en fait, ça va coûter trop cher.
C'est sûr maintenant que ça coûte trop cher, mais ça c'est sûr. Et c'est sûr ce que EDF est maintenant la France, parce que la France est, you know, EDF est 100% la France, le gouvernement de France maintenant. C'est sûr que la France va perdre beaucoup d'argent. Ça c'est sûr, mais ça c'est un fait accompli. OK?
Mm-hmm.
Alors, après ça... qu'est-ce qui est le problème? Est-ce que c'est... Alors, le problème est par rapport des réacteurs. Alors, notre grand problème, que c'est le climat et la crise de l'énergie. Le grand problème avec les réacteurs, c'est la longueur de construction.
Mm-hmm.
Et pour le gouvernement anglais, les papiers de Parlement ont dit que ça peut être entre 10 et 17 ans pour construire juste un réacteur. Mais avant ça, il y a tout le planning, all of the site permits, toute la recherche, tous les policies avant ça. Donc, pour vraiment construire un réacteur pour avoir tous les permis, pour avoir tout ça, c'est très long à faire. Et par rapport au International Panel on Climate Change, the IPCC, qui est, on sait maintenant, on n'a pas le temps, vraiment. On a vraiment pas le temps pour construire plusieurs réacteurs pour améliorer les effets de climat. Donc, le vrai problème avec le nucléaire, bien sûr, c'est le coût. Le coût, c'est énorme. Et ça, c'est un énorme problème par rapport à ce qu'on dit, the opportunity costs, et aussi par rapport... opportunity costs, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent si on ne fait pas le nucléaire.
Oui.
Okay? Ça, c'est opportunity costs. Le deuxième problème, c'est la longueur de la construction. Et dans ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut faire par rapport aux renouvelables, demand-side management, storage, stockage,
okay. Demand-side management, c'est la maîtrise de la demande.
C'est ça. Okay. Energy efficiency.
Okay, l'efficience. Ouais, enfin, l'efficacité énergétique.
Isolation. Mm-hmm. Interconnection.
Okay.
Et toutes les autres choses qu'on sait on peut faire par rapport à la vraie transition énergétique. Mm-hmm. Donc, la réalité, on n'a pas le temps pour le nucléaire. Ça, c'est le vrai problème. Et aussi, excusez-moi, mais on a pas l'argent. Alors maintenant...
Enfin, ça, c'est le problème des Français, j'ai envie de dire, mais...
Oui, mais... mais aussi pour ça aussi, ça a devenu un problème pour les Anglais. Alors, pas pour la France, pas pour Hinkley Point C. Les Français, actuellement maintenant, ont demandé à le gouvernement anglais, excusez-moi, est-ce que vous pouvez nous donner un tout petit peu d'argent? Okay. Mais c'est vrai, ils ont dit, excusez-moi, est-ce que... Et aussi, est-ce qu'on peut renégocier notre contrat?
Ah.
Pour peut-être, il a demandé peut-être 15% moins. Donc, ils ont commencé à demander des choses un peu, excusez-moi, un peu excessives, quoi.
Ben oui.
Mais le problème, le vrai problème, parce que moi et tout le monde croit que peut-être Hinkley Point, c'est, en effet, c'est moitié construit en ce moment actuellement.
OK.
Okay? Donc, ça, je crois que ça va aller. OK. Ça va être construit avec un coût énorme. Et en plus, les pauvres Français doivent payer beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'avenir pour ça. Mais on ne parle pas de Hinkley Point, on parle maintenant de Sizewell C,
okay,
qui est le plan pour les prochaines EPA1. Et les Anglais, ils ont dit, ah mince, you know, et plutôt les Français, c'était plutôt les Français actuellement. Pendant plus de temps, EDF a dit à les gouvernements anglais, ah non, on ne peut plus, non, c'est trop tout ça. Donc on doit avoir...
Ça coûte trop cher.
Ça coûte très cher pour nous. Ça coûte très cher. Alors est-ce que vous pouvez nous aider? Donc les Anglais ont inventé un truc qui s'appelle « Regulated Asset Base Mechanism ».
Okay.
Et par ça, c'est une moyenne pour les taxpayers,
ouais, pour les contribuables,
et les consommateurs d'électricité.
Okay.
Grande-Bretagne pour actuellement payer beaucoup de la coûte d'un nouveau central.
Okay.
Okay? Donc c'est une moyenne fiscale, n'importe quoi pour le payer. Et c'est passé par la loi et tout ça. Et tout ça. En effet, ça a été essayé en Amérique. Un faillite énorme, un total, ça a absolument pas marché. Mais, eh ben, nous sommes où nous sommes. Mais aussi pour les Anglais, ils doivent maintenant pour Sizewell C, ils doivent trouver à peu près 20 milliards pour le marché finance pour continuer avec Sizewell C. Mais c'est-à-dire que, simplement, EDF a dit, non, on ne peut pas faire notre Hinkley Point, c'est trop cher pour nous, ça va nous casser nos banques. Donc, vous devez trouver un autre moyen pour payer le coût énorme pour un centre nucléaire. Et les Anglais, les Britanniques, mais actuellement c'est les Anglais, ils ont essayé de faire quelque chose. Mais en ce moment, ils n'ont pas trouvé l'argent actuellement. Et donc, il y a un doute par rapport à ce qui se passe par rapport à tout cela. Et aussi, il y a un grand doute par rapport aux problèmes de Hinkley Point. Et aussi, l'idée que la France veut construire même un peu des EPA, si EPA peut actuellement aider de faire tout ça.
Quelle
Alors, une question de la part de Bernard.
Oui, dans toute cette affaire, le rôle des Chinois.
Parce qu'effectivement, la construction de l'EPR, c'est un consortium à, je crois, 65% d'EDF et 35% une compagnie chinoise, quelque chose comme ça. C'est de mémoire, alors.
Plus ou moins, c'est pas actuellement, mais à peu près. Alors, il y a quelques années, j'étais invité par the Royal United Services Institute. C'est un peu le gouvernement anglais, le section antelope de la défense, de avoir un discours contre un autre, avant un public d'espions, militaires, généraux et tout ça, à Russie. Et le sujet était, est-ce que c'est une bonne idée d'inclure des Chinoises dans les centrales nucléaires anglaises? Et moi, je dis non, c'est pas forcément une très bonne idée. Mm-hmm. Et nous avons cette discours il y a 10 ans. Et bien sûr, maintenant, tout le monde dit, absolument pas. C'est l'idée d'avoir les Chinois dans les centrales nucléaires anglaises, c'est la folie totale.
Déjà, avoir des Français dans les centrales nucléaires anglaises, on pourrait en discuter, non?
Non. Non, ça c'est complètement différent. Parce que...
Quelle était la position? Les Anglais sont dans Hinkley Point. Les Chinois étaient dans Hinkley Point.
Oui, je viens d'expliquer. Oui, je viens d'expliquer. Alors, c'est pas que c'est un problème de sécurité d'avoir les Chinois dans les centres anglais. Parce que, et en plus, non, c'est pas un problème pour les Anglais, les Britanniques d'avoir les Français dans les centrales. Okay. Mais maintenant, par les problèmes de sécurité, les Britanniques disent non. Les Chinois ne doivent pas être dans les nouvelles constructions par rapport à Sizewell C. Alors les Chinoises, ils disent, attends, vous voulez pas que nous sommes dans Sizewell C. Alors nous sommes un parti par l'argent de Hinkley Point et maintenant c'est fini. Non, excusez-moi, mais nous s'en va. Nous avons...
Ils ont dit, si vous ne voulez pas nous dans Sizewell C, on s'en va de Hinkley Point aussi, c'est ça?
Oui, on s'en va. Donc, c'est maintenant, les Anglais doivent trouver tout cet argent.
Encore plus d'argent.
Ah. Et en plus, c'était exactement le même par rapport à Sizewell C. C'était le gouvernement anglais ou EDF qui doit trouver un assez grand pourcentage de développement, de l'argent pour le développement des nouvelles centrales.
Attends, Bernard, oui.
Même question. Les Chinois étaient dans l'investissement de Hinkley Point. Ils s'en vont ou bien ils refusent de payer plus?
Ils refusent de payer plus.
L'argent du début, ça reste.
C'est fait.
C'était payé. Voilà. Exactement. Donc. Et la chose qui est plus importante, que aussi, maintenant, il dit, ils arrêtent absolument pas l'argent pour le développement de Sizewell C. Ils sont quittés, Sizewell C.
D'accord. Dès le début.
Oui, parce qu'avant, il avait peut-être à peu près 20% de le développement de Sizewell C.
Okay. Quand tu dis développement, c'est la construction, quoi.
Non.
Ah, c'est toute la partie des autorisations.
Oui. Le projet, le planning, the also to pay for the generic design assessment.
Oui, c'est ça.
Oui,
tout ça. Toute la procédure pour faire valider les plans, tout. Ok.
Qui est énorme, Oui. Le coût est énorme.
C'est pas que la procédure. Oui. C'est aussi toutes les recherches, les travaux, etc.
Ah oui.
C'est plus que la procédure.
Absolument.
Mais donc, en fait, au final, on se retrouve avec des sommes considérables, en milliards. Et donc là, il y a quand même... Est-ce qu'il y a un moment, il y a une institution ou le gouvernement britannique qui va dire, cet argent, on ne l'a pas, en fait. Et donc, il faut arrêter. Ou en fait, c'est une course en avant, c'est une course effrénée. Ou quel est ton avis là-dessus? Qu'est-ce qui va se passer, tu penses, toi?
Oui, ça c'est une grande question. Et ce n'est pas que des Anglais, c'est aussi des Français. Est-ce que EDF peut accepter tout ce manque de l'argent? Mais par rapport à la chose qui est soi-disant le coût de compte anglais, le coût de compte Grande-Bretagne, c'est plutôt les comités parlement. It's the National Infrastructure Committee, the Public Account Committee.
D'accord. Donc ça, ça dépend du Parlement britannique.
Oui, oui. Okay. C'est les comités députés dans les parlements avec les civil service. Et la chose qui est très importante, c'est soi-disant value for money. Value for money. Donc, si on regarde les différences entre le coût pour renouvelables et le coût pour les centrales, on dit que c'est peut-être 5-6 fois plus cher.
Oui.
Et en plus, le délai, c'est 5 fois plus le délai pour construire des centrales. Donc, on croit que dans 2024, on va avoir un nouveau gouvernement de centre, centre-gauche un peu, soi-disant, the Labour Party.
Okay.
Et ils ont dit qu'il va mettre 28 milliards pour la transition énergétique. Mais maintenant, il y a un an, ils ont dit ça. Mais maintenant, on dit, actuellement, si on regarde l'argent que le gouvernement a eu, the Treasury, il n'y a rien. Mais les Anglais, maintenant, ils n'ont vraiment pas l'argent.
Okay.
Et aussi, si on pense de qu'est-ce qui va se passer par, soi-disant, Sizewell C, les plans pour les nouveaux centrales EDF en Grande-Bretagne, pour de nouveaux EPA à Sizewell C, c'est les Anglais qui vont payer pour beaucoup de ça. Donc, après un moment, vraiment, est-ce que les gens commencent à dire, qu'est-ce qui se passe? Et si on regarde maintenant The Telegraph, The Times, The Financial Times, The Guardian, tout le monde a commencé à dire, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut continuer comme ça? Ou est-ce qu'on peut changer ce qu'on va faire?
Ah bah oui, j'imagine que c'est une question essentielle, alors qu'on a plus de mal à se poser en France, parce qu'il y a toujours l'État français qui est garant et qui dit qu'il trouvera de l'argent. Et nous, on peut dire on va construire 6 EPR sans savoir combien d'argent ça va coûter ni à qui. Une question de Bernard.
Quand on parle du coût de Sizewell, par exemple, ou du coût de EPR2 en France, on dit ça va coûter tant le réacteur. Et déjà, c'est beaucoup. Mais derrière, qu'est-ce qu'on fait avec le coût du combustible, le coût du démantèlement, le coût des déchets? Et ça, c'est des sommes considérables, sur de longues périodes en plus. Et c'est ça qu'il faudrait expliquer au Parlement. Donc si on explique aux journaux qui commencent à se poser des questions que le problème n'est pas seulement le coût du réacteur...
Ça, c'est une question qui agite aussi les médias britanniques?
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'en effet, les gouvernements et EDF n'étaient pas dit actuellement la vérité par rapport à tout ça. Ils ont dit par rapport à les déchets, oui, nous avons un problème énorme. Et c'est vrai. Ils ont dit, mais actuellement, les nouveaux réacteurs, c'est juste une addition de 10% de volume encore que...
En plus de ce qu'il y a
en
déjà.
Plus que ça. Le problème actuellement, par rapport à la radioactivité, ce n'est pas le volume, c'est la toxicity et la chaleur de la toxicity qui compte. Alors, eux, EDF et le gouvernement anglais, non, ça va, c'est juste 10% encore de notre problème. Mais actuellement, par rapport aux EPA, les EPA, ils font what's known as a high burn-up regime.
Okay.
C'est-à-dire que the uranium goes in, is burnt at a higher rate.
Ok, ça brûle à un taux plus élevé?
Beaucoup plus élevé.
Okay.
For longer.
Ok, encore plus de temps, oui.
And comes out much hotter.
Ok, quand ça sort, le combustible irradié est encore plus chaud que sur les autres réacteurs.
And much more radioactive.
Et plus radioactif.
Much more radioactive. Donc, actuellement, les nouveaux réacteurs, ils vont élever les problèmes par 5 fois actuellement.
Oui.
Donc, il y a une manque de responsabilité par rapport à ça. Et actuellement, le coût pour ça, le vrai coût... le problème des déchets radioactifs, c'est un problème carrément énorme. Et moi, je travaille avec les militaires, avec les gouvernements, avec les gens qui gèrent avec ça, dans les petits comités, dans les comités et dans les discours. Et entre nous, quand on nous parle de ça, et on parle de les dates, quand on peut, you know, il y a une idée, on peut faire un trou dans la terre et le,
et le jeter,
et le disposer. Ouais. Et entre nous, les gens qui travaillent dans ça, ils ont dit, même ça, on ne peut pas faire dans 100 années, plus de 100 années et tout ça. Et en plus, par rapport à ce qui se passe en France, en Grande-Bretagne, en France, le déchet, il monte. Et dans chaque centrale, you know, il y a des spent fuel, hot spent fuel, radioactive spent fuel, and intermediate level waste. Et il faut dire, nous allons dans un monde beaucoup plus dangereux, plus en plus maintenant. On a vu par rapport aux Zaporizhia et tout ça. Donc il y a des grands problèmes par rapport à la sécurité et le safety and security in the defense of reactors and also the spent fuel ponds and the intermediate level waste.
Là, tu as utilisé une expression que je ne connais pas, fuel spawn, tu as dit
Spent fuel, ça veut dire...
Donc c'est le combustible... c'est le vieux combustible irradié, qui est encore chaud et qui, à chaque fois qu'on le sort des centrales, doit être mis dans des piscines pour refroidir.
C'est ça.
Une intervention de Bernard.
J'ai une question. Est-ce qu'il est prévu dans les EP, y compris dans Hinkley Point, de mettre du combustible MOX?
MOX, c'est les Anglais, MOX était essayé en Grande-Bretagne, c'est fait en France, MOX. Maintenant, les Anglais n'ont pas fait ça en ce moment, ils ont essayé, ils ont trouvé ça trop difficile et trop cher.
Apparemment, c'est un bon choix de dire non au MOX pour Bernard. Est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voulais nous parler sur Hinkley Point?
Oui, pas forcément Hinkley Point, mais quand on parle de les problèmes, il faut aussi parler des solutions. C'est très important, surtout pour les jeunes, de comprendre que nous sommes bien dans la révolution ou évolution renouvelable et ça va changer nos vies. Alors, le International Energy Agency a dit que les renouvelables va déplacer le charbon pour la grande source d'électricité par 2025, globalement.
Okay.
En 2023, 96% de tous les nouveaux pouvoirs capacités globalement étaient renouvelables, avec les nucléaires, rien. The International Panel on Climate Change, the IPCC, ont dit que renouvelable est 10 fois mieux que de nucléaire par rapport le problème de CO2 mitigation. Donc, la réalité vraiment, nous sommes bien dans une évolution renouvelable. Et il faut dire, actuellement, si on regarde vraiment qu'est-ce qui se passe, le nucléaire, c'est vraiment marginal par rapport à ce qui vraiment qu'est-ce qui se passe.
Okay.
Bernard, une petite conclusion. Alors,
et je suis toujours gêné quand on ne parle que des renouvelables,
ouais.
Alors que ce qui est essentiel, c'est les économies d'énergie. C'est-à-dire que il faut absolument changer la civilisation énergétique, c'est-à-dire que au moins la moitié des efforts, ça doit être porté sur la réduction de la consommation et pas seulement sur les renouvelables. Parce que si on garde la même attitude productiviste en disant mais les fossiles c'est pas bien, le nucléaire c'est pas bien, et les renouvelables c'est tellement bien qu'il faut en faire tout le temps, on rentre dans la même mécanique d'une augmentation permanente de la consommation d'énergie. Et même si c'est renouvelable, ce n'est pas acceptable. C'est-à-dire qu'il faut absolument mettre en avant, et on ne le met pas assez en avant, la réduction des consommations. Un membre de Consulting Group.
Andrew Warren.
Et lui, depuis des années, enfin des dizaines d'années, il se bat pour les économies d'énergie, la rénovation des bâtiments, les transports, etc. Et heureusement qu'il est là, parce que très souvent, y compris de la part des scientifiques, c'est, la réponse c'est on va faire une production meilleure. Alors, d'accord, on fait une production meilleure, mais si on continue d'augmenter, la production meilleure deviendra à son tour un fardeau. Parce qu'on ne peut pas dire... Les renouvelables aussi peuvent avoir des problèmes. Et si on les multiplie partout, on ne répond pas aux besoins, surtout avec les bouleversements climatiques.
La clé, c'est la maîtrise de la demande. Merci, Dr. Paul Dorfman, d'être venu jusqu'à nous. Bravo pour votre français. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.
Merci, au revoir.
Un déjeuner chinois.
Oui, aujourd'hui, ça sera chinois. À bientôt, donc. Un déjeuner chez Bernard est un podcast financé par Global Chance, association d'expertise scientifique indépendante sur la transition énergétique. Le générique a été composé par Jack Ailes et Feel the Sound. Le morceau s'appelle Volcano. À bientôt pour un nouvel épisode d'Un déjeuner chez Bernard.